L'évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 26 pour notre méditation de ce matin. Jean, chapitre 14, versets 15 à 26, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider, l'Esprit de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas seul, je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Quand viendra ce jour, vous comprendrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi, et lui appartient et lui apparaîtrai. Jude, non pas Judas Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives nous apparaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera et mon Père et moi viendrons à lui et nous habiterons chez lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que vous m'entendez dire n'est pas de moi, mais vient de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous aider, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Pentecôte, une des grandes fêtes chrétiennes, au même niveau que Noël, Pâques et aussi Ascension. Mais pour faire simple, c'est le moment où le Saint-Esprit que le Christ avait promis à ses disciples qui va venir est descendu sur les disciples de Jésus-Christ. Nous connaissons tout cela. Mais nous avons toutefois un problème de taille dans notre perception de cette troisième personne de la Trinité. Et je souligne bien, qui a été déjà bien dit tout à l'heure, la personne. Car dans la pratique, quand nous prions chez nous, à la maison, toute seule, quand nous parlons du Saint-Esprit, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que nous sommes coincés dans la perspective vétérotestamentaire, la perspective de l'Ancien Testament. De quoi il s'agissait? Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas encore bien clair, bien perçu comme étant une personne à part entière en Dieu, mais il a été vu comme une force extraordinaire, comme avec Samson, rappelez-vous. Le Saint-Esprit était en lui, et il a pu combattre tous les Philistins. Nous avons compris le Saint-Esprit comme onction donnée aux rois et aux prophètes. Ça, ce sont toujours des idées de l'Ancien Testament, et la liste est encore longue. Mais ce n'était pas encore précis comme une personne, comme le Père et le Christ, qui, eux, par contre, dès le début, est bien mis en exergue en tant que personne. Alors, je pense que l'occasion, elle est bonne aujourd'hui pour que nous parlions de cette personne. Si on se réfère à la parole de Jésus, il est bien clair que l'Esprit Saint est une personne. Voilà ce qui est dit dans Jean chapitre 15, tout à l'heure, verset 26. « Quand viendra le défenseur ?» Vous voyez, c'est une personne. « Celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit grand E, l'Esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Ce n'est pas juste une puissance ni une force, c'est une personne, c'est Dieu lui-même. Mais pourquoi alors cette méconnaissance envers cette troisième personne de la Trinité? Pourquoi on ne l'a pas connu comme personne? Alors on fait autant les écrits de Jean, car il faut souligner, seul Jean qui parle de Paraclétos, le défenseur. Seul Jean, Marc ne parle pas de Paraclétos, de défenseur. Luc ne le parle pas, Matthieu ne le parle pas, seul Jean. Déjà là, il y a un mystère. Alors, à première vue, il semble qu'il y a une assimilation entre le Saint-Esprit et le Christ. C'est ça un peu la cause de cette incompréhension. Dans son évangile, Jean parle que le Saint-Esprit, le Paraclétos, c'est une aide, un consolateur, un avocat, un intercesseur, un réconfort, un conseiller. Voilà ce que ça veut dire Paraclétos, défenseur. Il a été envoyé par le Père et le Fils. Mais, toujours ce même auteur, Jean, dans son épître, utilise toujours le mot Paraclétos qui assurera le rôle d'avocat face au Père au jour du jugement. Et ce moment-là, ce sera le Christ. Donc, dans l'Évangile, il parle du Saint-Esprit comme Paraclétos. Dans l'Épître, il parle de Paraclétos comme étant le Christ. Alors, il y a une confusion dans notre tête. Et en parlant d'intercesseur, là aussi, il y a une confusion, ou plutôt une assimilation entre le Christ et le Saint-Esprit, car Paul décrit le Saint-Esprit comme intercesseur. Voilà ce qu'il dit. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Et pourtant, toujours dans le même chapitre, mais au verset 34, il est dit, qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Bizarre. Au verset 26, il dit, c'est le Saint-Esprit qui intercède auprès du Père. Et au verset 34, tout à coup, il dit, c'est le Saint-Esprit qui va intercéder le jour de notre résurrection. Donc, ça s'explique un peu pourquoi on l'a un peu mis de côté. Qu'est-ce que cela signifie? Et là, je vais reprendre une prédication d'un prêtre catholique que j'apprécie beaucoup. Il est déjà à la retraite, mais il prêche beaucoup sur YouTube, et je le suis particulièrement. Il s'appelle Henri Boulade. Un prêtre assez atypique, que je vous conseille même de voir. Mais il aime, pour son âge, j'étais vraiment étonné, il est fort âgé, mais il utilise un langage que je trouve bien moderne et qui nous fait comprendre les choses de façon très simple. Écoutons ce qu'il dit à ce sujet. Jésus est descendu vers nous où il a fait une visite de 33 ans sur terre. Et puis, il est remonté dans son ciel. Oh, c'est gentil, cette visite qu'il nous a fait pendant 33 ans. Mais lorsqu'il était avec ses disciples, il avait dit que Dieu est parmi nous. Mais est-ce que le Dieu avec nous a juste fait une visite de courtoisie qui a duré 33 ans? Il dit que je serai avec vous tous les jours. Or, c'est une visite qui ne dure que 33 ans. Alors, est-ce qu'il nous a trompés, ce Jésus? Mais il y a une phrase qu'il a dit juste avant de monter au ciel. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais enfin, Jésus, tu te moques de nous? Tu pars ou tu restes? Tu es avec nous ou tu es au ciel? Et là, le père Boulade a dit, même moi j'étais perdu. C'est quoi ce truc? Et il a dit, la langue anglaise pourrait peut-être nous aider à dépasser ce malentendu, dit-il. Parce qu'en anglais, il y a une nuance, le mot sky et heaven, pour exprimer le ciel. Le sky pour exprimer le ciel sidéral que nous connaissons tous, là où il y a les étoiles et tout ce qui est dedans. Le ciel physique derrière les nuages. Et puis il y a le mot heaven. Ce n'est pas le ciel en haut, mais le ciel dedans. Dedans. Jésus avait dit le royaume de Dieu est dedans de vous. Le royaume de Dieu n'est pas au ciel. Alors, dit Boulade, il n'est pas monté au ciel, se manda-t-il alors? Oui, pour moi, dit le père Henri Boulade, Il n'est pas monté au ciel sky, mais il est monté au ciel heaven. C'est-à-dire la hauteur. Et la hauteur, bibliquement parlant, parle aussi de profondeur. Et si on dit que le Christ est monté au ciel, c'est qu'il est aussi entré encore un peu plus dans les profondeurs des cœurs de l'homme. Et là, je ferme les guillemets. Waouh, je dis ça, j'ai jamais vu les choses comme ça. Et je trouve que c'est biblique. Je pense que cette réflexion du Père Boulade est une réflexion très spirituelle qui frôle un peu le côté mystique qu'on peut utiliser pour comprendre la relation qui existe entre le Christ et le Saint-Esprit qui est descendue non seulement dans le sens géographique, mais aussi une descente qui va jusque dans le cœur. Regardez bien le verset 23. Nous, Père et le Fils, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit que Dieu nous donne peut vraiment régner dans le cœur de ses disciples. Et avant qu'il reparte au ciel, cela n'était pas encore possible. Donc il faut que le Saint-Esprit vienne. Et là, je reprends à nouveau une explication de ce Père Henri Boulade. Il est écrit dans les évangiles, dit-il, et là, même moi aussi, je n'ai pas pu remarquer cette phrase, pourtant on le lit à chaque fois. Il est dit, lors de la montée du Christ, il est noté que le Christ a disparu de leurs yeux. Pour nous, disparu, c'est pouf, on ne le voit plus. Ce n'est pas un départ, mais une disparition. Vous voyez la nuance? Ce n'est pas un départ, mais il a disparu, c'est-à-dire qu'il n'est plus visible, mais il est toujours là. C'est un autre mode d'être du Christ avec nous grâce à la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est en nous. Il est revenu parmi ses disciples, mais cette fois-ci, pas visible à l'œil nu, aux yeux de tout le monde. Et là, la différence. Seuls ceux qui croient en lui savent qu'il est au milieu d'eux et en eux. Et cela, chers frères et sœurs, est un point crucial dans notre foi chrétienne. L'impact de ce Jésus qui est en nous et pour nous, il ne pouvait pas être pour nous s'il n'est pas en nous. Le Christ ne peut pas être pour nous s'il n'est pas en nous. S'il n'est qu'au milieu de nous, il ne peut pas être pour nous. Il doit être en nous pour être pour nous. Alors désormais, ce « pour nous » est rendu possible grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qui nous fait devenir les demeures du Christ. Qu'est-ce que cela apporte dans nos vies quotidiennes? Alors, revenons à la définition étymologique du terme « parakletos ». Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a, quand on regarde la définition dans le dictionnaire biblique, il y a tout un éventail de sens qui est donné par le dictionnaire, mais pour moi, ce ne sont pas juste que des synonymes, mais ce sont, on va dire, les richesses que nous pouvons recevoir du Saint-Esprit. Parakletos, je reprends, aide, consolateur, avocat, intercesseur, réconfort, conseiller. Voilà tous les services que le Saint-Esprit nous propose. Est-ce que nous utilisons tout cela? Il est ton avocat. Il est ton intercesseur. Il est ton réconfort. Il est ton consolateur. Il est ton aide. Tout cela est possible, si tu le veux. Et pour encore simplifier notre compréhension de la richesse dans ce mot, je vais l'illustrer par une image, un exemple. Regardez les privilèges que possèdent les stars de films, de joueurs, de foot, toutes ces personnes célèbres dans le monde entier, les personnes fortunées, les personnalités politiques que nous connaissons, en gros les VIP. Ces gens-là, dans leur vie, ne se tracassent de rien. Ils ont embauché une avocate ou un avocat, une femme ou un homme, à tout faire, qui s'occupe de tout, de la plupart de leur vie professionnelle, administrative, juridique, etc. Ils ne veulent pas perdre le temps, l'énergie pour des choses insignifiantes. Dès que tu lui parles, ben, parle à mon avocat. Ils confient tout à leur avocat. qui sont à la fois parfois leur conseiller, leur aide, leur intermédiaire, leur niveau, même au niveau administratif, et parfois même si vous suivez les actualités des personnes célèbres, parfois cette relation avec les avocats vont trop loin et ils vont ensemble en prison quand il y a trop de magouilles. C'est-à-dire que c'est presque, il fait partie de la famille. C'est plus un avocat, même si on le paye, c'est presque quelqu'un de confiance. Et je prends cet exemple pour nous faire comprendre que c'est plus que cela le Seigneur veut nous proposer. Si tu te fies à ton propre jugement, à ton propre analyse, à ton propre effort, tu te perdras dans la vie. Tu seras stressé, tu tomberas dans le burn-out. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui dans la maladie moderne. Il veut tout prendre en main, tous les domaines de notre vie. Non pas par intrusion dans notre vie privée, mais pour faciliter ta vie. Lâche tout. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle total, non seulement une partie de ta vie. N'es-tu pas fatigué de vouloir tout contrôler par toi-même? Il veut être ton défenseur, et défenseur toute cette liste que je viens de lire tout à l'heure. Une personne, tu es une personne très importante à ses yeux, plus qu'une VIP, tu es un enfant de Dieu. Et pourquoi tu ne profites pas de cette chance qu'il te donne? Et je vais terminer par une histoire qui me fait toujours rire, mais qui me fait réfléchir au pays, dans les pays africains qui connaissent bien ce contexte chez nous. Une maman qui, chaque fin de semaine, qui va au marché pour vendre ses légumes, elle attend le car brousse au milieu de la forêt avec tout un gros bazar. Il y a tous les légumes qu'elle porte sur sa tête. Et voilà le car qui passe. Vous imaginez, c'est toute son économie qui est au-dessus de sa tête. C'est toute sa vie. Elle va payer la scolarité de ses enfants avec. Elle va payer... Le soir, quand elle rentre chez elle, tout ce qu'elle doit dépenser pendant la semaine. Et une fois que le car arrive, il y a un gars qui dit « Passez votre sac, madame, on va le mettre au-dessus. » Non, pas question. Vous ne touchez pas à mon sac. C'est toute ma vie. Oui, mais vous allez être fatigué. Peu importe. Elle entre dans le car, elle tient le sac sur sa tête pendant le trajet. Elle est toujours fatiguée, même si elle a payé le ticket. C'est vrai qu'elle arrive à bon port, mais fatiguée. C'est un peu l'image de l'enfant de Dieu. Il porte toujours son sac sur son dos. Le Christ dit, donne-moi tout. Non, laisse-moi faire. Et ça ne sert à rien. Tu viens au culte, tu viens au temple, la Sainte Cène, rien ne change parce que tu portes tout. Pourtant, tu as un conseiller, tu as un avocat, tu as un consolateur, tu as une aide. Il devient chômeur. Alors aujourd'hui, lâche tout. Essaie. Et tu vas voir la paix que tu auras. Amen.